Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur !
Je vous propose une heure en compagnie d'animaux fascinants, futés, colorés, rapides, sophistiqués, bizarres. Ils ont 8 bras autonomes, du sang bleu, 9 cerveaux. On ne les voit pas toujours, sauf dans nos assiettes. Ils vivent en mer. Les poulpes ou pieuvres, les calmars et les seiches sont des mollusques et ils sont regroupés dans la classe des céphalopodes. Leurs comportements sont si étonnants que ces animaux semblent venir d'une autre planète. Les poulpes réussissent à ouvrir des bocaux, utilisent des outils et savent éteindre les ampoules dans les laboratoires. Ce sont aussi des transformistes qui changent de couleur à leur guise. Laure Bono-Ponticelli est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Cette spécialiste des céphalopodes appartient au laboratoire Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques.
Les aventuriers sur France Inter.
Les céphalopodes, donc pieuvres, seiches, calmars, ont toujours fasciné par ces comportements qu'on arrive, nous, à expliquer. C'est-à-dire qu'ils ont ce que certains qualifient d'intelligence, mais c'est surtout des comportements étonnants d'apprentissage.
Ils sont capables, par exemple, de s'échapper d'un aquarium ?
Et oui, parce qu'en fait, ils sont pas très 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 heureux dans les aquariums, les céphalopodes, et particulièrement les poulpes, hein, qui ont quand même besoin d'un milieu naturel qui soit particulièrement enrichi. Donc en fait, ils ne font qu'une chose, c'est tenter de s'enfuir.
Ils sont capables, depuis leur aquarium, de voir par où ils peuvent s'enfuir.
Oui, alors ça c'est le problème de tous les aquariophiles qui gardent des céphalopodes et particulièrement des pieuvres, c'est qu'il y a nécessité de ne laisser aucun petit orifice par lequel la bête pourrait passer. Et en fait, ils ont des capacités d'évaluation de l'espace qui leur est nécessaire pour s'enfuir en évaluant la distance du trou par rapport à la distance qu'ils ont entre les deux yeux, qui correspond en fait à la distance minimale par laquelle ils peuvent passer. Tout le reste du corps, ils peuvent le passer, parce qu'ils sont très 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 mous, sauf au niveau du cerveau qui est enfermé dans une capsule cartilagineuse avec les deux yeux. Et donc ils arrivent à s'enfuir dans des espaces très petits.
Ils sont capables d'évaluer la grosseur du trou par rapport à leur corps. Ils ont une conscience de leur corps.
Voilà, alors c'est ça qui est absolument étonnant, c'est qu'on n'imagine pas que ces animaux puissent avoir une conscience de leur corps, mais ils ont aussi une conscience des distances. C'est-à-dire que non seulement ils mesurent la distance, donc ils ont une évaluation géométrique de ce qu'ils voient en face. Bon, soit, ça, il y a beaucoup d'animaux qui peuvent le faire, en tout cas on sait chez les vertébrés que c'est commun, mais c'est la première fois que chez un mollusque, finalement, on arrive à le montrer. Et qu'il a une évaluation de cette distance par rapport à sa propre distance corporelle. Ce que nous, enfin, on voit bien que humains, quand les enfants essayent de passer par un trou, ils n'ont pas d'évaluation de la largeur, par exemple, de leur bassin par rapport au trou par lequel ils peuvent passer. Eh bien, les céphalopodes l'ont.
Ils ont donc une représentation corporelle.
Exactement, ils ont une représentation corporelle.
Est-ce qu'une scientifique comme vous peut expliquer ça ?
Ah ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, la manière dont fonctionne le cerveau des céphalopodes, bien entendu, il nous est complètement inconnu. Donc on a juste une appréhension très lâche, en fait, pas très scientifique, parce qu'on fait un peu d'anthropomorphisme quand même, hein, de ce que la bête est capable de faire avec son cerveau. Après, il a des bras, hein. On voit que quand il essaye de s'échapper, en fait, avec ses bras et ses ventouses, il tâte. Donc il tâte le trou et donc c'est par ses mains, c'est un peu comme nous, hein, mais nous avec nos doigts, avec nos mains, quand on touche, on peut éventuellement avoir cette représentation. Et les bras sont extrêmement importants du point de vue de la sensation de l'environnement chez les céphalopodes.
Et on dit bien bras, on ne dit pas tentacules.
Oh, c'est horrible de dire tentacules pour les pieuvres. C'est les calmars et les sèches qui ont deux tentacules en plus de leurs bras, mais elles ne sont pas tout à fait faites de la même façon et n'ont pas forcément les mêmes fonctions.
Et vous en avez vu s'échapper ?
À s'échapper, non, jamais. J'ai jamais vu s'échapper des pieuvres d'un bocal, d'un aquarium, puisque maintenant les gens font très très attention à fermer hermétiquement leurs aquariums.
Vous parlez de bocal. Il y a ces histoires de pieuvres, de poulpes capables d'ouvrir des bocaux et je vous propose d'écouter un extrait d'une expérience menée par le commandant Cousteau en 1973 avec une langouste enfermée dans un bocal.
Ce qu'il y a, c'est que le poulpe, qui paraît être un animal dont l'équipement psychique ou nerveux est assez réduit, est en réalité un animal très intelligent, qui a une mémoire, qui comprend très bien, qui reconnaît, et nous avons fait une expérience notamment qui est assez étonnante, qui consiste à lui descendre un bocal dans lequel il y a une langouste, et à lui faire ouvrir ce bocal. Il est tout à fait capable, il a mis 2 heures quand même à comprendre, mais il est tout à fait capable d'enlever le bouchon et de manger la langouste. Eh bien, quand on pense aux difficultés qu'on a à apprivoiser ou à obtenir quelque chose de certains animaux, à les dresser, là, le poulpe a montré, au contraire, qu'il était très malin et qu'il comprenait parfaitement. Mais il ne fait que ce qu'il veut.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, alors ça, c'est l'expérience fondatrice. En général, quand je parle de comportement de céphalopodes, je commence toujours par cette expérience-là en disant « Vous avez tous vu l'expérience du commandant Cousteau qui tente de faire apprendre à une pieuvre à ouvrir un bocal ». Et bon, en général, les plus vieux me disent oui, ils s'en souviennent, les plus jeunes pas du tout, donc je leur dis d'aller voir sur YouTube parce que cette expérience est reprise. Et c'est une expérience fondatrice parce que c'était la première fois déjà que la bête était considérée sous un angle qui n'était pas négatif. Et puis surtout, montrer que la bête était capable d'apprentissage et de faire une action avec un appendice qui n'est pas une main, mais qui est le même type d'action qu'on fait nous avec une main. C'est-à-dire qu'elle ouvre un bocal, c'est-à-dire une structure qu'elle n'a pas du tout l'habitude de voir en milieu naturel, et qu'elle est capable de dévisser avec un bras, donc en comprenant qu'il faut opérer un système de rotation pour avoir la chose à l'intérieur. Donc en fait, ça fait une double complexité. C'est-à-dire qu'elle a repéré la chose et elle sait qu'il faut qu'elle trouve le moyen de l'atteindre. Et moi, ça me fascine toujours de voir qu'on est capable d'observer une action que nous, on interprète comme étant quelque chose qui nous est familier à nous, humains. Et là, j'essaye de pas faire d'anthropocentrisme, mais le fait est là. Et c'est un cerveau qui est complètement différent et qui est capable de faire ça.
Si on représente à nouveau un bocal à une pieuvre ou à un poulpe qui a su ouvrir le bocal, est-ce que l'animal va aller plus vite ?
Oui, alors dans l'extrait qu'on a entendu, le commandant Cousteau dit qu'il met 2 heures, je crois, à essayer de comprendre. Bon, en fait, on s'aperçoit que ça va un petit peu plus vite que ça. Alors, on ne sait pas si elles deviennent de plus en plus intelligente, entre guillemets. Mais oui, le temps diminue. Et c'est là où c'est ce qu'on appelle en fait de l'apprentissage avec de la mémorisation à court terme. Donc la bête est capable d'aller de plus en plus vite pour une action. Et sur les comportements, justement, c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que les céphalopodes sont capables d'apprendre par l'observation. C'est-à-dire qu'ils sont un congénère qui regarde un autre faire une action. Par exemple, 1 minute la première fois, puis 30 secondes la deuxième fois, puis 10 secondes la troisième fois, eh bien le congénère qui l'observe va directement le faire en 10 secondes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, lui, de tout ce temps d'apprentissage. Il regarde, il observe, il fait.
Autre chose fascinante chez ces animaux, ils sont capables de changer de couleur très très vite et de s'adapter au milieu.
Ah oui, ça c'est le gros succès des céphalopodes, le changement de couleur, par rapport aux caméléons qui changent de couleur très 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 lentement en fait, hein. C'est entre 5 minutes, entre 2 et 5 minutes. Les céphalopodes c'est 1 millième de seconde. Et les pieuvres et les seiches qui vivent près du fond ont développé justement des capacités de camouflage grâce à ces changements de couleur qui sont dus à différentes petites cellules qui se trouvent dans la peau. Et ces cellules, enfin parmi ces cellules, il y a des grosses cellules en superficie qui sont des chromatophores et qui sont pleines de pigments colorés. Et en fait, ces cellules sont reliées directement au cerveau. C'est des organes neuromusculaires. Et dès qu'il y a une information qui arrive au cerveau, à partir de l'œil, hein, ces yeux extraordinaires, eh bien, elle va directement à la vitesse de l'influx nerveux jusqu'au chromatophore, jusqu'à cette cellule pigmentaire qui va s'étirer ou se relâcher. Et quand elle s'étire, la palette de couleurs augmente. Et vous vous rendez compte qu'il y a des milliers et des milliers de chromatophores. Quand je dis des milliers, c'est des millions, hein. Il y en a plusieurs centaines au millimètre carré chez les pieuvres. Eh bien, c'est une sorte de peau dynamique. Voilà, il y a une dynamique de la couleur chez les céphalopodes.
Et ça sert à quoi de changer de couleur ? Pour se fondre dans le milieu ?
Et oui, changer de couleur, c'est quand même l'outil essentiel pour se camoufler. Et se camoufler, ça a été sélectionné au cours de l'évolution pour échapper aux prédateurs et puis pour détecter les proies sans être vu. Donc en fait, il y a ce camouflage qui consiste à adopter parfaitement la couleur du fond sur lequel on repose. Et puis chez les pieuvres, il y a en plus la forme, la manière dont la bête va s'adapter au support, parce qu'elle est toute molle hein, par rapport à une seiche. Et puis avec des petits subterfuges au niveau de la peau qui vont lui permettre aussi d'avoir une espèce de texture hein, qui ressemble à la texture ambiante. Donc il y a non seulement la texture, mais aussi les couleurs qui vont faire que la bête va complètement disparaître au niveau du fond.
Les pieuvres, les poulpes, les calamars ont eu très longtemps mauvaise presse. On les a accusés d'être très dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, ben je trouve ça honteux. En fait...
Écoutez cet extrait d'une émission de 1960, « Les animaux dangereux ».
Tout le monde connaît la page célèbre des travailleurs de la mer dans laquelle Victor Hugo décrit le combat de Gilliatt contre la pieuvre. Et comme le poulpe commun présente effectivement un aspect assez effrayant, on n'a pas tardé à en faire le type même du monstre marin, la sale bête à l'état pur, dont le contact et même la rencontre doivent être évités à tout prix. Qu'y a-t-il de vrai dans cette opinion très répandue et qu'en pensent les zoologistes et les plongeurs ? Les avis sont assez partagés. Et voici quelques opinions prises au hasard. Premièrement, bien qu'ayant manipulé plusieurs milliers de pieuvres, aucune ne nous a mordus. Deuxièmement, il existe au moins 4 cas d'êtres humains mordus par des pieuvres. Troisièmement, à mon avis, les chances qu'un plongeur soit attaqué par une pieuvre sont comparables à celles qu'un chasseur a d'être attaqué dans les bois par un lapin. Quatrièmement, une grande pieuvre est l'animal le plus dangereux qu'un plongeur puisse rencontrer. Cinquièmement, un fermier dans son champ court autant de dangers d'être attaqué par une citrouille qu'un nageur peut l'être par une pieuvre, etc., etc.
Te souviens-tu du temps de nos confinements ? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Solution à nos questionnements. Ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
Crois au printemps, on écoutait M.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
On connaît environ 300 espèces de poulpes, sans compter les calmars et les seiches. Certains sont énormes, d'autres tout petits. Les poulpes ont des capacités cognitives étonnantes qui n'ont rien à envier à celles des vertébrés. Il faut dire qu'ils ont en moyenne 500 millions de neurones, ce qui est beaucoup pour un mollusque. Ils ne vivent pas longtemps, certes, mais ils s'apprivoisent. Les céphalopodes viennent de loin. Ils sont apparus il y a plusieurs centaines de millions d'années. Laure Bonoponticelli, professeur au Muséum national d'histoire naturelle.
Alors en fait, dans le groupe des céphalopodes, on va distinguer d'abord deux grands groupes. Il y a celui des nautiles, qui est une coquille externe, qui est le seul à avoir conservé une coquille externe. Et puis il y a l'autre groupe, qui est celui des animaux tout mous, qui ont perdu leur coquille externe, mais dont certains ont gardé une coquille interne. Chez les seiches, il y a cette coquille que vous connaissez bien, puisqu'en général, c'est celle qu'on trouve sur les plages, cette espèce de ce qu'on appelle l'os de seiche, en fait, hein, ou qu'on trouve dans les cages des canaris. Donc ça, c'est les seiches, qui sont un peu plus plates, donc un peu plus rigides, qui vivent près des côtes. Et puis, il y a les calmars. Alors, les calmars, en général, c'est ceux dont vous trouvez les rondelles dans la paella, donc qui sont beaucoup plus longs. Et eux, ils vivent plus en milieu océanique. Hein. Ils sont très longs, ils ont des petites nageoires en triangle au bout, et eux, ils vont très très vite. Hein. Ils vivent pas du tout près du fond, ils nagent en permanence. Et puis, il y a les pieuvres, ou les poulpes. Hein.
C'est la même chose.
Et oui, c'est la même chose, en fait. C'est juste le nom qui est différent. C'est Victor Hugo qui a inventé ce mot pieuvre, hein, puisque c'était poulpe initialement. Et alors, eux, ils ont plus du tout de coquilles. Hein. Ils sont tout mous. Et puis, ils vivent, eux, plutôt près des côtes, pour ceux qu'on connaît évidemment, il y a des exceptions, il y en a qui vivent dans les abysses, on reviendra peut-être dessus, mais en fait les poulpes ont 8 bras, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et puis les seiches et les calmars ont 8 bras et 2 tentacules. Et les poulpes, en général, on se trompe un petit peu parce qu'on dit qu'ils ont leur tête, donc cette espèce de grosse masse ronde qui est la tête. Mais en fait, non, hein, la grosse masse ronde, c'est le corps. Et en fait, la tête, c'est juste ce qu'il y a entre les deux yeux et qui est relié au bras.
Sur les bras, il y a des ventouses.
Ah, ça, c'est la caractéristique des céphalopodes, les ventouses. Et il y a des ventouses sur toute la longueur des bras. Et puis, sur les tentacules des seiches et des calmars, c'est juste au bout parce que ça leur permet d'attraper leur proie, en fait. Hein. Elles lancent très, très vite leur tentacules. Et ces ventouses, c'est des organes qui sont très sensibles, qui sont chimiosensibles, mécanosensibles, et qui sont bourrés de terminaisons nerveuses et de neurones, hein, ce qui leur permet, comme on l'a vu tout à l'heure, de tester pas mal de choses de leur environnement.
Vous parliez de Victor Hugo, je vous propose un extrait des Travailleurs de la mer, un texte qui est assez connu.
Dieu a fait la pieuvre, quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable. Si l'épouvantable est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. La baleine a l'énormité, la pieuvre est petite. L'hippopotame a une cuirasse, la pieuvre est nue. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cri menaçant, pas de cuirasse. Pas de cornes, pas de dards, pas de pinces, pas de queue prenante ou contendante, pas d'aileron tranchant, pas d'épines, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. Et pourtant, la pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée.
Il y a beaucoup d'écrivains qui se sont inspirés de ces animaux étonnants.
Oui, beaucoup d'écrivains ont été en quelque sorte fascinés par ces animaux et en fait ont repris ces animaux dans leurs écrits probablement parce qu'il y avait des résurgences de la mythologie. En fait, les céphalopodes, c'est l'ancienne hydre. Et donc cette espèce de bête venue des profondeurs qui fascine, et ça faisait en quelque sorte un monstre à moindre frais, avec une espèce de réalité, mais sans qu'on puisse vraiment vérifier la chose.
C'est tout à fait ça, y compris dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne.
Ah oui, oui, dans 20 000 lieues sous les mers, c'est tout à fait ça aussi, surtout que on confond un peu le calmar, le poulpe, on lui donne un peu tous les noms possibles et inimaginables, et la seule chose, c'est effectivement cette espèce de monstre qui vient terrifier ces bons humains qui se promenaient tranquillement sur la mer.
Devant mes yeux s'agitait un monstre horrible. C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque. Ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, implantés sur sa tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure des furies.
On prête aux poulpes et aux pieuvres une intelligence énorme. On dit que ces animaux ont beaucoup de neurones et 9 cerveaux. C'est vrai ?
C'est vrai et c'est pas vrai.
Ah.
Les céphalopodes ont effectivement beaucoup de neurones, mais évidemment, par rapport à l'humain, c'est finalement assez peu. Mais ramené à la masse, c'est pas si peu que ça, parce que évidemment, on peut pas comparer la masse d'un cerveau de pieuvre et la masse d'un cerveau humain, hein, c'est sans commune mesure. Donc, ils ont énormément de neurones et ils ont, comme je viens de le dire, un cerveau entre les deux yeux, qui est l'organe centralisateur. Et puis, ils ont des ganglions périphériques. Des ganglions périphériques, en général, on
au
parle...
Au bout des bras.
Alors, c'est à la base des bras. Donc,
oui.
Ils ont 8 ganglions périphériques à la base des bras. Et en fait, on les considère comme des mini-cerveaux, parce qu'il a été montré qu'ils pourraient avoir une certaine autonomie de fonctionnement. C'est-à-dire de donner des informations sans passer par la centrale nerveuse du cerveau central. Et c'est pour ça qu'on les appelle les mini-cerveaux. Mais les ganglions en eux-mêmes ne sont pas capables de donner des informations à l'ensemble du corps. Mais ils peuvent contrôler de manière autonome les bras pour certaines formes d'action, en tout cas de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant.
Vous avez été fasciné par les yeux des seiches. Qu'est-ce qu'on peut dire des yeux de ces animaux ?
Ah ben les yeux, c'est comme le cerveau en fait. Les yeux des céphalopodes sont analogues à ceux des vertébrés. C'est-à-dire que même en ayant une origine évolutive complètement différente, ils ont une structure semblable. C'est-à-dire que c'est un œil qu'on appelle camérulaire, hein, avec une rétine au fond, un cristallin, un iris et puis une cornée. Et en fait, la rétine est constituée de cellules qu'on appelle rhabdomériques, qui, elles, sont complètement différentes des cellules rétiniennes des vertébrés.
Et ce sont des yeux très performants.
Ah, c'est des yeux extrêmement performants. Chez les mollusques, finalement, c'est les seuls à avoir des yeux aussi performants, qui sont capables d'obtenir de l'information, évidemment, lumineuse aux alentours, et puis de les transmettre au lobe optique et au cerveau. Les lobes optiques, ça fait partie du système nerveux central, hein, c'est lié au cerveau, mais c'est ce qui permet d'analyser les informations. Et tous les comportements des céphalopodes, ou en tout cas l'essentiel des comportements, sont dits guidés visuellement. Donc c'est par les yeux finalement que les céphalopodes sont capables d'avoir des comportements aussi fascinants.
Alors on a parlé de la peau, on a parlé du cerveau de ces animaux, on a parlé des yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la bouche ?
Alors, la bouche des céphalopodes, elle a ceci de particulier qu'elle a, c'est au centre de la couronne de bras, hein, on a cette ouverture de la bouche et puis on a un bulbe buccal et dans le bulbe buccal, il y a le fameux bec de perroquet qui est cet outil extrêmement puissant qui va non seulement en temps normal déchiqueter des coquilles de crabe, hein, c'est ce qui permet de broyer la carapace de crabe, et puis qui, dans les romans de Jules Verne et de Victor Hugo, va broyer les humains.
Les calamars aussi ont ça?
Oui, en fait, tous les céphalopodes, hein, même les nautiles, ont ce fameux bec de perroquet.
Extrait d'une émission de 2013, Fantôme des grands fonds, le calamar géant.
Enfin, les premières images.
Oh, qu'est-ce que c'est ?
Ce n'est pas un calamar, mais un siphonophore. La patience des scientifiques va être récompensée.
Oh mon Dieu !
L'avis du professeur Kubodera fait autorité. Aucun doute, il s'agit là d'un calamar, et de taille respectueuse. Mais il ne se montre pas dans son intégralité. Alors, est-ce effectivement un calamar géant ?
Ça doit en être un.
Vous plaisantez ?
Non, ça doit bien être un calamar géant. Cet animal a énormément de ventouses et des bras très très longs. C'est impressionnant.
Quand on dit calamar géant, c'est vraiment très grand ?
Oui, le calamar géant, alors on dit le calmar géant, est vraiment très très grand. C'est-à-dire qu'en longueur du manteau, donc le manteau c'est la partie qui est à l'arrière de l'animal, ça peut avoir 8 mètres, jusqu'à 8 mètres de longueur, ce qui est vraiment énorme. Et puis avec les bras et les tentacules, là évidemment on peut atteindre 15 mètres, les tentacules étant plus longues que les bras. Mais on dépasse rarement 8 mètres de manteau. En fait, il y a plusieurs types de calmars de très grande taille et un seul qui est le calmar géant, qui est Architeuthis dux. Et donc, il y a beaucoup de calmars de grande taille qu'on est capable, en tout cas, de voir. Mais le calmar géant, lui, vit plus dans les profondeurs. Et en fait, sa présence dans les abysses a longtemps été un mystère. Et c'est Tsunemi Kubodera, qui est un chercheur japonais absolument adorable, qui a eu en fait cette idée magnifique de mettre des caméras à plusieurs sur des filins sur le chemin de migration des baleines, puisque les baleines se nourrissent de calmars. C'est là où, pour la première fois, il a réussi à avoir des images du calmar géant, dont il a su que c'était le calmar géant par une analyse de peau d'un tentacule qui était resté, enfin moins de détails.
Les loups trésors, est-ce qu'elle est là, loin encore? Plutôt vers toi, ou plutôt Est-ce qu'elle est là, loin encore? Plutôt vers toi, ou plutôt vers le nord? Je
C'était Anne Brun, Iceland Blues.
Les aventuriers sur France Inter.
Dans les profondeurs des abysses, par plus de 4000 mètres de fond, vivent des créatures étranges qui étonnent les scientifiques depuis longtemps. Elles surprennent par leur taille, qui peut être gigantesque, et par leur façon de s'adapter, car certaines produisent de la lumière. À la fois mâles et femelles, ces êtres sont magnifiques.
Les céphalopodes, alors d'abord, c'est que des bêtes océaniques, on n'en trouve pas du tout en eau douce. Et puis, en fonction des groupes, ils vont se répartir vraiment du milieu proche côtier, très très près des côtes, jusqu'à des 3000 mètres de profondeur. Donc en fait, c'est des bêtes qui vont avoir des adaptations particulières, évidemment, en fonction de l'endroit où ils vivent. Ils ne vont pas avoir les mêmes adaptations s'ils vivent près des côtes ou s'ils vivent en profondeur au niveau morphologique.
Et quand on vit dans des grandes profondeurs, il n'y a aucune lumière, c'est très noir. Et là, certains ont développé des capacités étonnantes.
Et oui, parce qu'en fait, dans les profondeurs, comme il n'y a pas d'obscurité, bon déjà, c'est des bêtes qui ne vont pas développer des systèmes de chromatophores de couleurs comme on en a discuté tout à l'heure. Donc elles vont avoir plutôt un manteau un peu uniforme. Et puis, il va bien falloir chercher à manger. Il va falloir chercher à manger et puis il va falloir à un moment chercher son partenaire aussi. Donc chercher à manger, il faut essayer quand même d'éclairer un petit peu la nuit noire.
Oui, dans le noir, c'est pas facile.
Ah, c'est pas facile de trouver à manger parce qu'en plus la nourriture est très très rare. Ils sont dispersés, les proies sont très dispersées. Et donc pour arriver à les trouver, on va essayer un peu d'éclairer. Donc certains calmars, certaines pieuvres qui vivent dans les profondeurs ont développé, comme beaucoup d'autres animaux dans le monde animal, ont développé des systèmes de bioluminescence. Donc la bioluminescence, c'est en général associé à des petites bactéries qui vont être luminescentes et qui vont fournir de la lumière. Alors elles peuvent être encloses dans des structures qu'on va appeler des photophores, par exemple. Et c'est parce qu'il y a cette bioluminescence que l'animal va permettre, ça va lui permettre un petit peu de détecter des proies.
Et ça leur permet aussi de communiquer, non?
Alors voilà, il y a une bête absolument extraordinaire qu'on appelle le Vampyrotetis infernalis, et qui est rouge avec des gros yeux bleus, et qui non seulement a des gros photophores dans sa partie postérieure, mais qui aussi produit un mucus qui est bioluminescent, et qui est bioluminescent de manière un peu sporadique. C'est-à-dire qu'il y a ce mucus dans les bras, et qui fait comme des espèces de petits spots d'éclairage, un petit peu comme du morse. Et l'hypothèse, c'est que soit c'est pour distraire un prédateur potentiel, c'est-à-dire qu'avec les bras, en fait, le prédateur, il ne sait plus où est-ce qu'il doit manger, ou alors c'est pour éventuellement attirer un partenaire sexuel en lui disant « Coucou, coucou, je suis là, viens me voir », tout ça, à la saison des amours, parce qu'évidemment, il faut trouver son partenaire aussi dans les abysses, parce que c'est pas facile, dans la mesure où les céphalopodes sont mâles et femelles. Donc il faut qu'ils trouvent l'autre partenaire pour réussir à faire des bébés.
Ce qui est fascinant aussi chez ces animaux, c'est que, vous le savez bien mieux que moi, ils peuvent utiliser des outils.
Oui, alors ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le bocal, l'utilisation d'outils.
Oui.
C'est une particularité, ou en tout cas c'est ce qu'on a pu observer chez certains céphalopodes. Et particulièrement les pieuvres, ce sont celles qui sont le plus étudiées.
Racontez-nous des histoires d'outils de pieuvres ou de poulpes. Il y a ces poulpes qui se servent de demi-noix de coco pour faire des maisons.
Oui, alors en fait, ils s'en servent surtout pour se cacher, hein, oui. Pour se cacher des prédateurs, parce qu'en fait, c'est des zones, enfin les zones où ils vivent, ils sont extrêmement visibles par les prédateurs, et donc il y a un moment où si on se met sous une noix de coco, on est protégé des prédateurs qui ne nous voient pas. Donc il y a des systèmes, bon c'est pas le seul, hein, mais l'échappement aux prédateurs passe pour ces espèces par cette mécanique-là.
Donc les animaux prennent quoi? Des demi-noix de coco, les transportent?
Oui, voilà, ils les transportent et puis ils se mettent dessous, ils se cachent dessous. Ce qui leur permet aussi, quand ils soulèvent un petit peu, ça c'est rigolo, quand ils soulèvent un petit peu la demi-noix de coco et qu'on voit leurs gros yeux là, qui observent, ça leur permet aussi de détecter des proies potentielles. Hein. Il y a toujours cette espèce de balance entre le prédateur et la proie.
Laure Bonneau-Ponticelli, je vous propose en fait deux extraits que nous avons accolés, un extrait de 1953 et un extrait de 1973. L'extrait de 1953, c'était à bord de la Calypso, et puis en 1973, quelqu'un qui avait suivi cette expérience en parlait. Écoutez.
Pour la première fois, un travail méthodique d'archéologie sous-marine permettait de ramener en 1250 plongées 7000 amphores, d'innombrables poteries, les ancres et le matériel de bord dont vont s'enrichir les musées d'Europe.
Les pieuvres avaient choisi de vivre dans les amphores, car les pieuvres ont besoin de maisons. Elles se cachent le plus qu'elles peuvent. Et une amphore, c'est une maison toute trouvée. Elles étaient donc toutes là-dedans. Or, un des plus grands amusements des poulpes consistait à transporter des pièces de monnaie anciennes d'une amphore à l'autre, ce qui faisait que en haut, le brave Fernand Benoît avait les plus grandes difficultés à identifier les choses.
Est-ce que ça vous étonne, ça ?
Alors oui, ça m'étonne et ça m'intrigue, parce que on observe là un poulpe faire quelque chose qu'on n'est pas capable en fait d'interpréter vraiment. C'est-à-dire que on peut l'interpréter comme le poulpe fait des choses amusantes et puis est un poulpe facétieux et il déplace des petites pièces d'une amphore à une autre. Après, est-ce que lui ne va pas s'en servir comme support potentiel pour quelque chose qu'on ne connaît pas parce qu'on le voit pas.
Et donc on a encore peut-être du poisson avec.
Alors peut-être. Peut-être, mais ça c'est difficilement explicable. En tout cas à l'heure actuelle, on n'arrive pas encore à tout comprendre, et heureusement.
Et comment se reproduisent ces animaux ?
Ces animaux se reproduisent grâce à un bras qui va être modifié en pénis copulateur, c'est-à-dire un organe copulateur, donc le bras se modifie, c'est un mot un peu compliqué, ectocotyle, et donc le mâle va amener par ce bras copulateur, va amener jusqu'au niveau de la cavité buccale de la femelle, les sacs de spermatozoïdes qu'on appelle des spermatophores. Et c'est la femelle, lorsqu'elle va faire passer ses ovules au niveau de sa cavité paléale et de sa cavité buccale, que les ovocytes, que les ovules vont être fécondés par les spermatozoïdes.
Et ensuite, la femelle pond des œufs. Et j'ai cru comprendre que les femelles pouvaient être très maternelles.
Alors, ça dépend. Ah. Ça dépend des céphalopodes. En fait, la manière dont la femelle va s'occuper des œufs dépend des bêtes. Chez les sèches, en fait, la femelle pond ses œufs, elle les attache et elle s'en va. Et c'est terminé, et les œufs se développent comme ça. Chez les calmars, ils déposent des cordons avec tout plein de fins intérieures, et puis ils s'en vont. En revanche, il y a certains poulpes, les hélédones en particulier, mais d'autres pieuvres aussi, qui vont accrocher leurs œufs sous les rochers et qui vont en permanence les oxygéner, les nettoyer jusqu'à l'éclosion. Alors c'est aussi parce que cette zone nécessite, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de mouvement d'eau, nécessite une oxygénation. Et puis, les animaux, que ce soit les femelles ou les mâles, meurent après la reproduction. Donc en fait, ce n'est pas parce que la femelle s'occupe de ses petits jusqu'à ce qu'elle meure qu'elle meurt. Voilà. Oui. Ce n'est pas parce que souvent on dit oui, la femelle, en fait, elle se sacrifie, elle se nourrit pas, elle se sacrifie à nettoyer ses bébés, tout ça, et c'est pour ça qu'elle meurt. En fait, les mâles meurent aussi. Hein. Ils n'ont qu'une seule saison de reproduction, malheureusement.
Car ces animaux ne vivent pas très longtemps.
Eh bien non, ils ne vivent pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ils vivent entre 18 mois et 3 ans, mais de toute façon, ils font une seule saison de ponte. Et c'est Théodore Monod, que je le cite toujours, mais qui disait que si les céphalopodes avaient eu un cycle de vie plus long, eh bien ils auraient surpassé les hommes.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day.
Stop this flame, c'était Céleste.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Les céphalopodes sont très sensibles à la lumière, tellement sensibles que dans les laboratoires, les poulpes réussissent à éteindre les ampoules. Laure Bono-Ponticelli, spécialiste des céphalopodes, s'intéresse plus particulièrement au sein du laboratoire Boréa du Muséum National d'Histoire Naturelle aux étonnants yeux des seiches.
Alors nous, dans l'équipe au muséum, on étudie les bébés seiches. En fait, on étudie le développement du système nerveux et des yeux, des embryons de la seiche européenne. Et on commence à développer des études sur l'influence de la lumière, de la photopériode, des UV, justement sur le développement des yeux et du système nerveux central.
Ça ressemble à quoi un bébé seiche ?
Alors, un bébé sèche, quand il est dans son œuf, c'est ce que certains appellent le grain de raisin sur les plages. Hein, son œuf, il est tout noir. Et le bébé sèche, à l'intérieur de l'œuf, quand il est, on va dire, aux deux tiers du développement, ben, il ressemble exactement à un adulte. Et c'est ça qui est fascinant par rapport aux autres mollusques, c'est qu'il n'y a pas de stade dit larvaire. Hein, le bébé à l'intérieur, il est comme l'adulte.
Un mini-adulte, en fait.
C'est un mini-adulte, hein, voilà, à la différence près qu'il a un petit peu moins de cellules colorées et puis que son cerveau est un petit peu moins mature.
Donc on étudie la lumière sur les céphalopodes.
Oui, exactement, parce qu'en fait, on revient toujours à cette histoire incroyable des yeux des céphalopodes qui sont capables de capter des variations lumineuses absolument étonnantes et dans une gamme certainement supérieure à celle que nous, on a, même si, évidemment, ce qui est embêtant, ils ne voient pas les couleurs. Hein. Ils ne voient pas les couleurs, mais ils voient l'intensité, les contrastes et ces variations de luminosité. Et on pense qu'ils sont beaucoup plus sensibles justement aux variations de lumière que n'importe lequel d'entre nous vertébrés.
J'ai lu pas mal d'histoires de poulpes dans des aquariums qui envoient de l'eau sur les ampoules du laboratoire pour couper la lumière.
Oui, parce que il est possible que, en fait, ces ampoules ou la qualité de lumière de ces ampoules les gêne. On commence justement seulement maintenant à étudier de manière un petit peu plus précise le type de lumière qui peut perturber aussi le céphalopode dans sa vision. Il est capable de voir la lumière polarisée, hein, ce que nous, on n'est pas capable de voir. Donc si, par exemple, il y a plusieurs sources lumineuses différentes qui empêchent qu'il arrive à se faire une image correcte qui lui permette d'interpréter son environnement, il va éliminer la source lumineuse.
Mais ça veut dire qu'il a compris que l'ampoule donnait de la lumière.
Eh bien oui, il a compris que l'ampoule donnait de la lumière parce que justement, il y a cette source de lumière qui le gêne, donc qui va essayer de l'enlever. Et le seul moyen qu'il a, c'est d'utiliser quelque chose qui peut projeter à distance, c'est-à-dire son eau qui vient de son entonnoir.
Ces animaux fascinent le grand public, les scientifiques, et ils sont tellement bizarres, étranges ou semblent tellement intelligents que des scientifiques ont pensé, il y a quelques années, ils ont émis cette hypothèse que ce seraient des animaux qui seraient arrivés sur une météorite, des extraterrestres.
Alors, pourquoi les céphalopodes seraient apparus une météorite? Bien entendu, c'est quelque chose qui peut sembler un peu farfelu, hein, même si ça a été émis par des scientifiques, tout simplement parce que il y aurait des molécules dont on pense qu'elles pourraient faire partie de la soupe primitive à l'origine de toute la vie. Bon, mais ça, il y en a partout. En fait, ils ont repris un petit peu le mécanisme dont on a déjà parlé chez Jules Verne et Victor Hugo, c'est-à-dire que j'utilise cet animal extrêmement étrange pour en faire quelque chose qui vient d'ailleurs, un alien en quelque sorte. Il y avait eu un très beau documentaire scientifique justement sur les céphalopodes qui s'appelait « Alien des profondeurs ». Comme on n'arrive pas tout à expliquer, il y a un moment où si on dit que ça vient d'ailleurs, ben c'est aussi bien pratique.
Vous vous souvenez de cette histoire en 2010 quand Paul Le Poulpe était capable de prédire qui allait gagner en foot?
Oui, alors bien entendu, on ne peut pas prêter à Paul Le Poulpe des dons de cartomancienne ou de cartomancien. C'est évidemment quelque chose qui avait été extrêmement amusant, hein, puisqu'on avait beaucoup travaillé aussi à ce moment-là sur l'interprétation par rapport à la couleur qu'ils ne voient pas, hein, les céphalopodes, et puis la forme, en tout cas, du drapeau. Donc on essayait beaucoup de jouer sur les yeux, bien entendu, ça n'est pas vrai, et la preuve en est qu'aucun céphalopode n'avait prédit la crise du Covid-19.
Extrait d'une émission télévisée de 2008, présentée par Jean-Pierre Pernaut.
Deux grands matchs samedi et dimanche. Alors le poulpe allemand qui ne s'est jamais trompé, Paul, qui a-t-il choisi cette fois?
Le verdict de Paul, eh bien figurez-vous qu'il a choisi les Espagnols devant les caméras du monde entier et même en direct dans certains pays. Il a un petit peu tergiversé avant de choisir, vous le voyez, l'Espagne. Et puis une heure plus tôt, il s'était concentré sur la petite finale, hein, qui va opposer l'Uruguay et l'Allemagne. Et là, il a choisi l'Allemagne qui finirait donc pour lui troisième de cette Coupe du Monde. Paul, on le rappelle, a réussi sans faute.
Et dans cet extrait, on avait mis des petits drapeaux à Paul Le Poulpe pour qu'il dise « ben voilà, moi, je pense que c'est cette équipe qui va gagner ». Donc les poulpes, les pieuvres, les calmars, les seiches sont des animaux vraiment étonnants. Est-ce que vous en mangez ?
Et oui, j'en mange depuis que je travaille dessus. C'est terrible, mais quand j'ai vu ces animaux, que j'ai vu ces embryons, ces couleurs, ces yeux, ces capacités, je me suis dit, mais c'est si beau, ça doit être bon aussi.
Et c'est bon, c'est vrai.
Et c'est délicieux. Quand c'est fraîchement pêché, c'est vraiment délicieux.
Le prince des profondeurs, l'étonnante intelligence des poulpes de Peter Godfrey Smith est disponible chez Flammarion. Cet ouvrage nous emmène au large de l'Australie à la découverte d'un peuple incroyable. Et puis aux éditions Ulmer, il y a Poulpes, sèches et calmars, un livre scientifique qui dit tout sur les céphalopodes. Merci à Stéphanie Texier qui a réalisé cette émission. Merci à Fanny Leroy pour les recherches d'archives et pour les lectures qu'elle a faites avec Jérôme Sandelard. À la technique, il y avait Serge Viguier. Vous pouvez réécouter cette émission autant que vous le voulez ou la podcaster sur le site de France Inter. La page des Saventuriers est aussi à votre disposition. Samedi prochain, nous parlerons des virus et des microbes et quelles sont leurs stratégies pour survivre. Très bonne semaine à tous à l'écoute de France Inter.